OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 6, les versets 11 à 22. Genèse chapitre 6, versets 11 à 22. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une arche, une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. Ayant un souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. On va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur, nous nous apprêtons à étudier un passage des Écritures qui est un passage important, celle où tu donnes à ton serviteur Noé l'ordre de construire l'arche pour sauver sa vie, celle de sa famille, et aussi les animaux, Seigneur, que tu voulais préserver de la destruction. Seigneur, ouvre nos yeux, fortifie notre foi afin qu'on accorde vraiment une pleine confiance dans les Saintes Écritures, et Seigneur, qu'on puisse ainsi t'honorer. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, je vous rappelle, on va faire une révision rapide un peu de ce qu'on a vu et on va continuer à partir de l'endroit où on était rendu la semaine dernière. Alors, j'avais intitulé la leçon « La destruction divine des hommes par le déluge ». On avait vu la division qu'on voyait dans le texte, la destruction exposée, donc à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, c'est Dieu lui-même qui expose à son serviteur de quelle façon il va s'y prendre pour détruire la terre. Ensuite, verset 14 à 21, on avait la destruction échappée. Donc on a, Dieu permet un moyen par lequel le serviteur va être sauvé de la destruction ainsi que les animaux. Et le verset 22, qui est le dernier, c'est la destruction estimée. Autrement dit, Dieu aurait pu dire n'importe quoi. Souvent, on a vu Dieu dire des choses aux hommes, ils n'en tiennent pas compte. Même aujourd'hui, on dit aux hommes qu'il s'en vient une destruction, la destruction par le feu, le jugement, l'enfer après la mort, etc. Est-ce que les hommes prêtent l'oreille du tout? Ici, on voit le serviteur de Dieu, Noé, qui vraiment, après l'avertissement que Dieu lui donne, non seulement prête l'oreille, mais accomplit ce que Dieu veut. On imagine à l'époque, construire un bateau de même, tu n'es même pas proche de l'eau. Quand il a commencé à construire ça, c'est sûr que les gens proches ont dû s'approcher de lui et ont dû lui demander, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Et là, imaginez-vous, tu es en train de dire au monde, me construis un bateau parce que dans 100 ans, la terre va disparaître sous les eaux. J'imagine que ça devait rire aux éclats, comme on dit. Mais la foi que ça devait demander, et la confiance que cet homme-là avait dans ce que Dieu a dit, de se mettre à l'œuvre et de vouloir construire ce qu'on a vu tantôt sur le vidéo. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas à quoi on fait référence à une vidéo qui est sur YouTube, qui s'appelle Ark Encounters. C'est un projet américain qui sont en train de reconstruire l'Arche de Noé avec les dimensions bibliques et qui va s'ouvrir le 7 juillet 2016 et qui nous donne une idée du côté gigantesque de tout cela. Alors, Dieu, on le sait, est infiniment patient. Les hommes avaient commencé à corrompre tout ce qui se passait sur la terre. La terre était pleine de violence et remplie de corruption. Et on le sait, les Écritures nous l'enseignent, le Seigneur ne laisse jamais le péché impuni. Ce n'était qu'une question de temps avant que le Seigneur n'intervienne. Alors, bien entendu, le nombre d'hommes augmentant, le nombre de péchés au pluriel augmentait considérablement, et les hommes s'enfonçaient de plus en plus profondément dans le péché. Alors, la corruption était rendue telle que le Seigneur lui-même a décidé que tout ça, c'était plus bon. Il fallait que ça soit détruit. Alors, tout était corrompu. Les hommes avaient réussi à corrompre tout, les institutions divines. On a l'institution du mariage. Bien entendu, à cette époque-là, ça devait être, comme on dit en québécois, le free-for-all dans les relations entre les hommes et les femmes. Il y avait les relations sexuelles, bien sûr. Si le Seigneur a dit que tout était corrompu, les relations sexuelles devaient l'être aussi. Les relations interpersonnelles, autrement dit, les relations entre les individus, vu que le péché régnait partout, il devait y avoir beaucoup de mensonges, beaucoup d'exploitation, beaucoup d'à peu près toutes les formes de péché possibles, imaginables. Bien entendu, tout cela devait s'être concrétisé dans le commerce aussi, dans l'industrie, dans tout ce qui se faisait à l'époque. Alors, et il y avait quelque chose de grave aussi qui s'était corrompu, c'était l'adoration elle-même. Parce que quand les hommes s'en vont dans l'idolâtrie, bien sûr, ils font une adoration à ce qu'ils ne devraient pas l'avoir. Quand on lit dans Romains, les hommes ont échangé la gloire de Dieu contre des bêtes, des reptiles. Alors sûrement que l'adoration, les formes d'adoration avaient dû se corrompre au plus haut degré. Alors les hommes avaient échangé la véritable adoration du Dieu authentique contre toutes sortes de formes de superstition et d'idolâtrie. Et les devoirs envers les hommes, donc les devoirs envers Dieu, l'adoration et ce qui suit, les devoirs envers les hommes qu'on lit dans les six derniers commandements de Dieu, bien sûr, il devait y avoir des péchés pour tous ces commandements-là. Alors, bien entendu, l'injustice, la fraude, l'oppression, la rapine, et bien entendu, la société devait être rendue à un point où il n'y avait plus aucune crainte de Dieu. N'est-ce pas que ça ressemble un petit peu à la société dans laquelle on vit présentement? Alors, l'apostasie, l'éloignement du Seigneur, était vraiment entier, généralisé, irrémédiable, irréversible. On sait que dans les Écritures, le Seigneur intervient toujours dans les affaires des hommes, dans les affaires de son peuple, mais on dirait qu'il y a toujours un degré, le Seigneur est très patient. Il arrive un degré où, quand le Seigneur dit « le péché est à son comble », quand on regarde plusieurs histoires de l'Ancien Testament, on se rend compte que souvent le Seigneur va juger les nations environnant Israël, ou Israël lui-même, lorsque le péché a atteint un certain degré. Alors, quand c'est rendu irréversible, autrement dit, il n'y a plus rien à faire avec ça. Un peu comme nous, quand on a des affaires qu'on considère que ça ne vaut plus rien, c'est de la cochonnerie. On ne peut pas récupérer, on ne peut pas réparer. Qu'est-ce qu'on fait avec? On l'envoie directement dans les poubelles. Alors, on sait que le terrible jugement du Seigneur était sur le point de tomber. Quand on a dit tout à l'heure que le premier point, c'est la destruction exposée, versets 11 à 13, c'est vraiment Dieu lui-même qui va être l'auteur de la destruction. Quand il nous dit dans le verset 11, était corrompu devant Dieu et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, il était corrompu, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. On ne parle pas de quelques exceptions de pourriture dans la société, là. On parle de corruption qui s'était répandue dans toutes les couches de la société, toute chair. Ça impliquait, à l'exception de Noé et sa famille. Donc, le Seigneur veut détruire, il veut informer son serviteur qu'il va détruire la presque totalité des habitants de la terre qui péchaient de façon flagrante, ouverte et de façon publique, de façon présomptueuse aussi. Quand on lit les auteurs qui parlent de ce passage-là, ils nous disent que c'est fort probablement une époque où non seulement on pratiquait les formes de péché sous toutes ses formes, mais qu'on le faisait, quand on parle, quand le texte nous dit, était corrompu devant Dieu, c'est vraiment l'idée que les êtres humains cherchaient à pécher, même en sachant que Dieu était contre. C'est comme une rébellion ouverte qui aggrave encore davantage le péché. Mais c'était vraiment oublié que le Seigneur a... Quand on regarde l'ensemble, quand on étudie la théologie et qu'on regarde l'ensemble des attributs de Dieu, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble de ses attributs dont chacun est infini. Pour nous, moi, c'est une chose que plus j'ai d'années d'expérience dans la vie chrétienne, plus j'étudie les Écritures, plus je me rends compte jusqu'à quel point Dieu est grand. Cette semaine, j'écoutais Dr. James Dolezal dans une interview qu'il avait avec un autre pasteur. Il va nous enseigner à l'automne prochain à Asbestos et il va nous enseigner sur la doctrine de Dieu. J'écoutais ce qu'il disait sur la simplicité de Dieu. Tu sais, on va dire, si je vous demandais, chacun de vous, venez en avant, expliquez-moi qu'est-ce que c'est la simplicité de Dieu. On serait surpris, même dans les plus savants d'entre nous, de se rendre compte à quel point on est manquant dans notre connaissance, même la connaissance révélée. Parce qu'il y a deux formes de connaissance. Il y a la connaissance révélée, celle que Dieu nous a donnée sur tout ce qu'il est dans les Saintes Écritures. Et il y a aussi la connaissance dont on n'atteindra jamais le fond. Alors, si je suis un docteur en théologie, que j'ai passé ma vie à étudier ce qui est Dieu dans chacun de ses attributs, ce que le docteur Dolezal a fait, qui va nous enseigner, j'écoutais sa manière de parler de Dieu, ça m'a édifié. Même après que j'ai fini le petit vidéo d'une quinzaine de minutes, il parlait de Dieu d'une manière telle qu'on voyait qu'il y avait une conception du Seigneur qui était tellement élevée que ça nous édifiait de l'entendre, juste l'entendre parler. Alors ça, c'est une chose que je crois que on a avantage comme chrétien à développer de plus en plus, à demander au Seigneur de nous donner, lorsqu'on lit les Écritures, une compréhension beaucoup plus approfondie de la grandeur de sa personne. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Il y a des fois, quand on fait des leçons, on parle de la création, quand on a fait le nombre d'étoiles, on parle du poids de l'univers, on parle de l'âge. Et notre esprit monte jusqu'à un certain degré, et c'est même la connaissance qu'on a de l'univers à l'heure actuelle qu'on a. Et c'est fort probablement beaucoup plus grand que ça. Notre esprit devient, en anglais, j'aime bien le terme awe, A-W-E. C'est qu'on devient, c'est comme ça. Je trouve le mot awe, il dit quasiment, c'est qu'on est ébloui, notre esprit est comme... L'adoration, c'est ça. On découvre qui le Seigneur est, et là, on peut pas faire autrement que notre échine plie et on reconnaît qui il est. Et on est loin. Tout le monde, même ce docteur Dolezal-là, je suis convaincu qu'il y a une conception de Dieu qui est fort probablement supérieure à la mienne. Mais, même lui, il est loin de connaître Dieu. Parce que l'éternité ne suffira pas. C'est ça qui nous fascine concernant la personne de Dieu. Il est tellement grand que même notre vie éternelle, quand on va être avec lui en sa présence, ne suffira pas pour le découvrir exhaustivement, comme on dit. Ça nous donne-tu une idée? Et plus on se connaît nous-mêmes, plus on reconnaît qu'on est pécheur, on est corrompu, on est faible, on est pauvre, on est misérable, qu'un Dieu aussi grand puisse s'abaisser à nous regarder et à nous aimer. Plus on va comprendre la grandeur d'un côté, plus on va comprendre notre misérabilité, plus on va être ébloui par le fait que Dieu nous aime malgré tout cela et qu'il s'est penché sur nous pour nous donner la grâce. Alors, bien entendu, l'Éternel ne tient pas le coupable pour innocent. On peut le lire dans Nahum, chapitre 1, verset 3, il dit « L'Éternel est lent à la colère et grand en force, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. » Alors aujourd'hui, on voit toutes sortes de mal autour de nous, dont on ne voit pas la justice humaine s'exercer non plus. Ça nous écœure, on voit du monde qui ça vole à tour de bras, ils s'en tirent tout le temps, ils ont des bons avocats, ils mettent des fortunes là-dedans, ils s'en tirent et ils nous rient en pleine face. Mais les Écritures nous disent que les péchés des hommes, le Seigneur n'en laissera aucun. Alors tu peux passer à travers le filet humain de justice, mais tu ne passeras pas à travers celui de Dieu. Dieu voit chacune de tes pensées, entend chacune de tes paroles, il voit dans tes actions, et même les omissions, tous les péchés sont comptabilisés et le Seigneur est un comptable. Les péchés sont vraiment enregistrés. Quand on parle du grand livre, nos péchés sont inscrits dedans, les péchés des hommes, surtout ceux qui ne sont pas régénérés. Alors, il dit qu'il ne nous tient pas le coupable pour innocent. Et il dit à son serviteur la raison pour laquelle il s'apprête à faire quelque chose d'aussi grand, détruire la terre. Il était corrompu, toute chair avait corrompu sa voix. Alors, le regard de Dieu inclut toutes les réalités des hommes, leurs pensées, leurs actions, leurs intentions. Maintenant, aussi, les Écritures nous disent que Dieu intervient dans les... On va prendre un passage, on l'avait lu la semaine dernière, Genèse 15, versets 13 à 16, où Dieu nous dit que parfois, il va intervenir dans l'histoire de son peuple ou l'histoire des hommes, mais à un moment précis, celui où le péché est à son comble. Autrement dit, la patience est énorme. Alors, Genèse 15, verset 13 à 16, ça dit « L'Éternel dit à Abraham... » Pas à Abraham, mais à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Alors, je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, et tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et ici, porte attention au verset 16, « Et à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. » Autrement dit, l'Éternel est en train de dire, le jugement va venir, parce que le péché d'un peuple de pécheurs n'est pas encore pleinement rempli. Alors le Seigneur, c'est souvent sa manière d'agir, il intervient après une patience très longue, autant dans nos vies que dans celles des pécheurs. Et c'est très intéressant de savoir cette qualité du Seigneur-là, parce que s'il n'était pas patient, ça ne serait pas beau. Et là, il leur dit l'ampleur de la destruction qu'il veut amener. Il dit, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Alors, le Seigneur, on avait vu aussi la semaine dernière, on est en train de faire la révision, souvent, le Seigneur, avant de faire de grandes choses, va révéler à ses serviteurs ce qu'il s'apprête de faire. Par exemple, dans Amos, au chapitre 3, au verset 7, ça dit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et vous, il l'a révélé à Noé, il l'a cru, Et on nous dit dans le Nouveau Testament que Noé était un prédicateur de justice. Donc, en le faisant, il devait se réserver des temps où il commençait à avertir les gens de ce qui s'en venait. Mais eux n'ont pas porté, n'ont pas donné foi à aucune de ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand le Seigneur s'apprête à faire de grandes choses, on dirait qu'il veut donner un avertissement à ses serviteurs. Je pense que encore aujourd'hui, quand le Seigneur veut faire des grandes choses, je pense que le principe est encore appliqué par le Seigneur. Le Seigneur aime les siens, et souvent dans le livre de Daniel aussi, ça dit que les hommes, il y a des choses qui vont leur être révélées et ils ne comprendront pas. Les hommes non régénérés. Mais que les élus, eux, vont comprendre concernant certaines choses que le Seigneur veut faire. Alors, dans le verset 14 à 21, c'était un peu ce qu'on a regardé ce matin. Le Seigneur est en train de donner une façon à Noé de se sortir de ce qu'il s'apprêtait à juger la terre d'une façon extraordinaire. Mais il y a quelque chose de prodigieux dans ce... dans cette révélation-là. Tout à l'heure, on a lu que selon les spécialistes en navigation, un rapport de 1,6, par la longueur par rapport à la largeur, sur un océan qui est un peu en turbitude, parce que j'imagine quand c'est arrivé que les écluses se sont ouvertes par en bas, ça tombait par en haut, ça devait avoir une masse d'eau. Et si le bateau n'avait pas été construit d'une certaine façon, il aurait probablement chaviré, il n'aurait pas passé à travers. Qui pouvait dire à Noé que c'était les dimensions, et Dieu lui donne lui-même. Dieu lui-même sait comment ça, qu'est-ce qui va arriver sur la terre, et il lui donne lui-même les dimensions. Alors on croit que l'arche de bois, Gopher, plusieurs auteurs qui croient que c'était du cèdre, et là, il lui dit, tu le feras par loge. Alors, on a vu tantôt à l'intérieur qu'ils vont avoir comme des loges à l'intérieur pour ne pas mettre tout le poids à la même place et pour pas aussi que les animaux se déplacent à l'intérieur de tout ça et que ça crée un déséquilibre. Et il dit, tu le feras par loge et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Alors, et voici comment tu le feras. La longueur de l'arche sera 300 coudées, largeur 50 coudées, hauteur 30 coudées. Donc, 450 pieds de long, 50 coudées, 75 pieds de large, par 45 pieds de haut sur trois étages. Et il dit dans le verset 16, « Et tu feras une arche, une fenêtre, c'est-à-dire à l'arche, et tu l'achèveras à une coudée par en haut, et tu mettras la porte de l'arche sur son côté, tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. » Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche par loge et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Alors, on a vu un petit peu tantôt, même avec les moyens modernes, je ne sais pas combien de temps ça a pris à partir du moment où ils ont fait les plans, au moment de l'exécution totale. Si ça roule le 7 juillet, j'imagine que ça doit être presque terminé. On parlait tout à l'heure de... J'écoutais un stationnement de 4000 autos. Avez-vous une petite idée de la grandeur du stationnement qu'il va y avoir là? 4000 autos. Alors, ils s'attendent à avoir beaucoup de visiteurs. Ça va être une grosse affaire. Les gens vont vouloir, il va y avoir beaucoup de curiosité, les gens vont vouloir aller voir ce que c'est. Alors, on a regardé les différents problèmes qui pouvaient se poser à Noé. Comment me faire pour me procurer, pour construire une affaire de cette envergure-là? Il n'était pas une équipe de 200 jambes, il n'y avait pas de chainsaw. Et c'était les outils de l'époque de construire une affaire pareille. C'était une gigantesque tâche qui avait quelque chose à décourager le plus courageux des hommes. Moi, j'avoue que c'est que, premièrement, je ne suis pas un constructeur de nature. Et deuxièmement, même si je l'étais, je serais découragé quand même, parce que c'est vraiment toute une tâche à accomplir. Alors, on imagine la foi de Noé. Jusqu'à quel point, tu te lèves un bon matin, puis tu dis, on commence. On va aller se couper des arbres. On va commencer un par un. Et après ça, un deuxième. Et après ça, un troisième. Et tout construire ça, ça devait être épouvantable. Et la technologie... Souvent, j'ai lu ça souvent dans des commentaires. Les commentaires disent souvent, nous, les esprits modernes, à cause de notre science qu'on a accumulée, les technologies qu'on a développées au cours des siècles, on s'imagine que les gens de cette époque-là, c'était des gens moins intelligents que nous autres. C'est vrai qu'on est porté à faire. Alors, ils disent, faites attention, ils sont encore en train d'examiner certaines choses que les Égyptiens ont construites, puis on ne comprend pas encore comment ils ont fait. Alors, s'il y avait moins de technologie qu'aujourd'hui, puis ils réussissaient à faire des affaires, que même aujourd'hui, avec les moyens de technologie qu'on a, on a de la misère à concevoir comment ils ont pu faire telle chose, faut pas penser que ces gens-là étaient insignifiants et ignorants. Il y avait une intelligence qui était peut-être supérieure à la nôtre. Alors, j'imagine que les gens qui s'en vont vouloir construire une affaire pareille, premièrement, je ne sais pas si à l'époque on se faisait des plans. Là. Il y avait pas, je trouve qu'il n'y avait pas un plan comme le gars voyait. Ce matin, on voyait le chef de chantier avec des gros plans d'architecte devant lui. C'est sûr que quand tu as des plans de même, tout est précis, c'est plus facile à monter. Mais j'imagine que tu essaies de monter un bateau de 450 pieds de long, 75 pieds de large par 45 pieds de haut avec sur 3 étages, j'imagine que tes méninges ils doivent travailler un petit peu. Comment m'a construire tout ça? Et les versets 17 et 18, parce qu'on continue dans l'étude de notre texte, on voit qu'il y a une prophétie dans les versets 17 et 18, parce que le Seigneur, il dit quelque chose qui va arriver, mais au-dessus de 100 ans, ou au-dessus de 120 ans, dépendamment comment on interprète Genèse 6-3. Disons 120, qu'on accepterait que ça veut dire qu'il reste encore 120 ans de vie avant que je détruise la terre. Ça aurait pris 120 ans. Il dit, il fait une prédiction de ce qui va arriver dans 120 ans. Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre. J'imagine, dans l'esprit d'un homme comme Noé, il va se dire, de quoi qu'il parle? Même si tu sais que c'est Dieu, tu sais qu'il va l'accomplir, tu sais qu'il y a les moyens de l'accomplir, tu ne doutes pas de ça, mais tu dois te dire de quoi il parle. Tu sais, parce que tu dis, je vais amener le déluge d'eau au pluriel sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie, de dessus les cieux, de tout ce qu'il y a sur la terre et expirera. Alors tu t'imagines, tu n'as déjà vu de la pluie. Noé devait devoir avoir vu de la pluie. Je ne sais pas s'il n'avait eu ou non, je ne sais pas. De toute façon, essayez d'imaginer quelque chose qui va arriver, qui va demander une quantité d'eau telle que ça va remplir toute la terre, ça va détruire toute chair, ça va détruire la vie de l'homme. Mais il dit, tout ce qui est sur la terre expirera, mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Et là, il lui dit quelque chose. Qui va être sauvé? Il y a quelque chose par rapport ici à la doctrine du salut souverain. Voyez-vous, les hommes étaient avertis. Mais Dieu savait quand même qu'il n'aurait juste 8 qui rentreraient dedans. Parce qu'il leur dit, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Donc ça faisait 8 personnes. On estime qu'il y avait déjà quelques millions de personnes. Plusieurs auteurs parlent de 2 millions de personnes à l'époque. Alors, 8 personnes sur 2 millions, c'est pas beaucoup comme pourcentage. Chose intéressante, souvent, les personnes ont utilisé ce passage-là pour faire un parallèle entre le salut de Noé et sa famille par l'arche et le salut en Jésus-Christ. On va faire une comparaison un petit peu entre les deux. On va voir qu'il y a des similarités qui sont vraiment étonnantes quand on compare le salut en Jésus-Christ et le salut de la famille de Noé par l'intermédiaire de l'arche. Première chose qu'on peut... Il y a 10 remarques qu'on peut faire. Vous allez voir qu'elles sont toutes intelligentes. Elles ne viennent pas de moi. Je viens de quelqu'un plus intelligent que moi. Une œuvre non conçue par un esprit humain. Pour faire un bateau avec ces dimensions-là, avec les conditions que le Seigneur savait qu'il était pour amener, il fallait que ça soit conçu dans un esprit divin. Exactement la même chose pour le salut. Satan croyait qu'il avait brisé la race humaine, rentré le péché, amené la condamnation pour tous les hommes de tous les temps, de toutes les époques. Est-ce qu'il était capable de concevoir comment Dieu était pour régler le problème? Même si on dit de Satan qu'il est l'être le plus brillant, le plus intelligent que Dieu a créé, je suis convaincu qu'il n'était pas capable, qu'il n'avait pas prévu que Dieu avait une solution au problème qu'il avait lui-même amené. Alors on voit le parallèle entre les deux, c'est que c'est vraiment, les deux sont des œuvres non conçues par un esprit humain. La deuxième remarque, c'est une œuvre trouvant sa source en Dieu lui-même et étant l'accomplissement d'un plan divin. Les Écritures nous le disent dans le Nouveau Testament, de toute éternité, Dieu a choisi un nombre précis d'hommes et de femmes répartis dans le temps et dans l'espace à laquelle qu'il plaçait en Jésus-Christ avant même qu'on existe. Youhou! Excusez-moi, je ne voudrais pas vous distraire. Avant même qu'on existe, alors le plan avait été dans l'Esprit de Dieu de nous choisir, de choisir les hommes et les femmes à qui il accorderait la vie éternelle. Alors, le plan trouvait sa source en Dieu lui-même, le plan de salut, la même chose, et c'est l'accomplissement d'un plan. Dieu nous dit dans Éphésiens 1 qu'il avait un plan de salut, qui comprenait l'utilisation de son Fils, Jésus-Christ. La troisième observation qu'on peut faire entre les deux, c'est vraiment une œuvre accomplie par une méthode improbable. Est-ce que Noé aurait pu s'imaginer que Dieu avait décidé de détruire toute l'humanité et tous les animaux, excepté ceux qui rentraient dans l'arche? Par un moyen d'une masse d'eau tellement importante que tout serait détruit. Personne ne pouvait penser à ça. Alors, la même chose, quand on parle d'une méthode improbable, comment l'être humain qui avait chuté, qui était rendu pécheur, qui était rendu corrompu, comment il aurait pu imaginer, on sait que dans Genèse 3:15, on avait déjà l'annonce par le Seigneur que c'était par Christ qu'arriverait la solution au problème. Alors, l'être humain ne pouvait pas par lui-même concevoir de quelle manière le Seigneur était pour arranger ce problème-là qui était énorme. La quatrième observation et similarité, c'est une œuvre dont la beauté n'est perceptible que spirituellement. Quand on regarde l'Arche de Noé, à l'époque, construite avec les moyens du bord, on a vu ce matin qu'elle était toute belle, avait toutes des panneaux sur le côté, mais l'Arche originale, peut-être qu'elle n'avait pas l'aspect extérieur un petit peu léché, qu'on pourrait dire, comme on a vu celle-là. Avoir les mêmes dimensions, mais peut-être que l'aspect extérieur est peut-être plus beau dans celle qu'on a construite au Kentucky, que celle que Noé avait faite, qui était peut-être un petit peu plus « rough », comme on dit en québécois. Alors, si elle était « rough », on peut dire que c'est une œuvre dont la beauté n'est perceptible que spirituellement. C'était ceux qui avaient reçu le message de Dieu, qui voyant le gigantesque bateau, qui voyaient en elle, en ce bateau-là, en lui, la capacité de sortir de ce qui était pour arriver. Un peu comme la même chose, quand on parle de Christ, qu'on compare à l'arche, si on n'est pas en Christ, si on n'utilise pas sa personne pour éviter le jugement dont Dieu nous dit déjà, et nous, on est les ambassadeurs, comme ça dit dans 2 Corinthiens, on est des ambassadeurs de Christ, c'est à nous d'avertir les gens autour de nous de ce qui s'en vient. Peut-être qu'ils ne nous croiront pas, mais peut-être qu'il y en a qui vont croire. Parce que quand Dieu se sert toujours de la prédication, aussi pour notre propre salut, Comment Dieu est venu me chercher? Mais c'est par sa parole. Il se sert toujours d'un individu, d'un texte, d'un sermon, d'une lecture, mais ça a toujours un rapport avec sa parole, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit qui va arriver. Alors, sa parole, on fait souvent le parallèle dans le salut que la parole, c'est l'instrument de musique. Mais si l'Esprit de Dieu ne souffle pas dans l'instrument de musique, on n'entend rien du tout. Alors, le salut, c'est la même chose. On peut entendre par nos oreilles extérieures le message du salut exposé avec précision, exposé avec détail, exposé avec amour, exposé avec tout ce que vous voulez de passion. Ça peut arriver que ça atteigne juste l'oreille extérieure de l'homme. Quand est-ce que la parole de Dieu a fait son effet? C'est quand l'Esprit de Dieu souffle dans la parole et qu'à ce moment-là, quand tu la reçois, tu ne la comprends pas de la même façon. Quand le Seigneur parle des oreilles spirituelles, on a des oreilles physiques. Tu peux avoir entendu l'Évangile 100 fois par tes oreilles physiques puis pas l'avoir compris une seule fois spirituellement. Comme tu peux l'avoir entendu juste une fois, puis Dieu, l'Esprit de Dieu soufflait dedans et ça t'a compris tout de suite. Alors, il faut comprendre que la même chose ici, la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ n'est perceptible que spirituellement. Comment j'expliquerai pendant des semaines, des mois, à des personnes, toute la beauté, toutes les œuvres, toutes les facettes de l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ, avec les mots les plus savants, les plus beaux, ils ne comprendront pas. Parce que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on comprend. L'homme animal est mort, il ne comprend pas les choses de Dieu. La cinquième comparaison, c'est une œuvre réalisée et capable d'accomplir ses desseins. Autrement dit, à partir du moment que Noé avait construit son arche, qu'il a rentré dedans, il était dedans, on vous l'avait dit la semaine dernière, vous en souvenez-vous, le nombre de jours? 371 jours. Il a été là plus qu'un an. Un an et six jours. Donc, il était dans l'arche avec tout ce monde-là pendant un an et six jours à voguer. Alors, le bateau avait été conçu de manière à ce qu'il traverse le temps que Dieu avait prévu qu'il serait sur l'océan, qu'il serait sur cette masse d'eau-là pour les sauver. Alors, l'œuvre réalisée par Christ, quand on la comprend, quand on l'étudie après notre salut, on le sait que quand il est venu sur la terre, il a accompli ce pourquoi le Père l'avait voulu pour ses élus. Donc, recevoir le châtiment que ses élus auraient dû mériter, mais le faire à leur place, donc ce qu'on appelle l'obéissance passive, et l'obéissance active, autrement dit, il a fait à notre place ce que Dieu exigeait que chacun de nous ait pour pouvoir vivre en sa présence. Donc, l'œuvre, quand Christ est venu, il a accompli les deux parties. Il a accompli une vie parfaite d'obéissance qui a été mise sur notre compte si on croit en lui. Et Dieu le Père a jugé la condamnation que nous aurions dû avoir encore là à notre place. Autrement dit, quand Christ est venu faire le travail sur la terre, l'œuvre de salut, elle était efficace, elle était capable d'accomplir les desseins pour lesquels Dieu l'avait prévu. La sixième remarque, c'est une œuvre hautement ridiculisée, méprisée et critiquée par les hommes incroyants et rebelles. Quand on regarde à l'époque que Noé cherchait à avertir ces gens-là de ce qui s'en venait, c'est sûr qu'il a dû se faire payer la traite en termes de moquerie et de tout ce que vous voulez. Maintenant, quand nous, on cherche aujourd'hui à parler de Christ, à parler de Dieu, à parler du jugement à venir, à parler de l'enfer, est-ce que les gens ne font pas encore les gorges chaudes? Où que tu t'en vas, toi, avec ton histoire de Père Noël? Ils vont nous dire des histoires semblables, des remarques semblables. Alors, il n'y a rien de changé depuis le début. L'homme, quand il s'avise des choses spirituelles, ne veut rien entendre, il a les oreilles bouchées, et il veut les laisser boucher. Alors, on va être, comme Noé, en présentant l'œuvre de Christ, on va être ridiculisé, on va être méprisé, on va être critiqué par les incroyants et les rebelles. La septième similarité, c'est que l'œuvre disposait d'une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Le salut est éliminé par le Saint-Esprit qui amène du réconfort et de la joie. Là, on compare l'endroit où Dieu avait permis que l'arche soit construite de manière à laisser entrer de la lumière. On peut comparer à l'œuvre du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les différentes facettes de l'œuvre de Jésus-Christ. La huitième similarité, c'est une œuvre avec une porte unique. Il y avait juste une porte. Et le Seigneur nous dit, Jésus dit, « Je suis la porte. » Il est la porte. Si on n'entre pas par lui, on n'entrera pas du tout. Et ça, ce n'est pas quelque chose de populaire de nos jours. On a fait une leçon ce matin, on parlait d'écuménisme. Alors, l'écuménisme, une de les caractéristiques, c'est de niveler les doctrines par le bas. Ce que je veux dire par ça, c'est que il y a certaines doctrines fondamentales qu'on ne peut pas toucher, parce que si on les touche, ce n'est plus le véritable christianisme. Mais si tu étends ça à toutes les religions sont bonnes, ben les Écritures nous disent en Actes 4:12 qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Donc, il est la porte. Si tu n'entres pas par lui, tu n'entreras pas du tout. Pas compliqué, puis il n'y a pas juste Actes 4:12, il y a d'autres versets. Mais aujourd'hui, c'est pas populaire de dire ça. Les gens aiment mieux entendre, les hommes vont tous s'unir, ils vont avoir la même religion, ils vont avoir un gouvernement mondial, puis tout va bien aller. C'est ça qu'ils veulent entendre. Mais c'est pas ça que la Bible dit qu'il va arriver. Et la neuvième similarité, c'est que c'est une œuvre d'une parfaite efficacité. Oui, on le sait parce qu'on a lu la Bible au-delà du chapitre 6, on est rendu au chapitre 6, là, mais on l'a lu un petit peu, quelques chapitres plus loin, on sait que l'arche s'est ramassée sur le sommet du mont Ararat, que les gens ont sorti, les animaux ont sorti, et que la vie terrestre a repris. Alors, elle était terriblement efficace. Elle a été construite par des plans divins et elle a résisté à tout ce qui arrivait sur la terre à ce moment-là. Et la dixième similitude entre l'arche et le salut en Jésus-Christ, c'est une œuvre qui est négligée par la multitude. On le sait, quand on essaie de parler de l'Évangile au monde, ils ne veulent même pas entendre parler. Bien souvent, ils ne veulent même pas ouvrir un verset, ouvrir la Bible, quoi que ce soit. Ils ne veulent rien savoir. C'est intéressant de voir que malgré toutes les difficultés que ça pouvait représenter dans l'esprit de Noé, qu'il a été à son époque un prédicateur de justice. On le voit dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 19 et 20. Ici, j'ai la version Sterval. Ici, ça dit « Par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules, lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. » Alors, on nous dit que durant le temps de la construction, Noé a prêché. Combien de fois, il ne nous le dit pas. Ça ne nous dit pas, il le faisait quotidiennement, il le faisait hebdomadairement. Mais peu importe, on sait, parce que les Écritures nous le disent, que Noé avait averti les gens à répétition, et que rien n'est entré dans leurs oreilles. Et on a aussi 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 5. Encore dans la version Sterval. « Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, lui, huitième, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. » Voyez-vous, on donne un titre à Noé, un prédicateur de justice. Et on a aussi Luc 17, versets 26 et 27, où on vient le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre. Il a parlé du phénomène de Noé et de la similarité que ces choses-là vont prendre avec la fin des temps. On a ça dans Luc 27, les versets 26 et 27, encore une fois dans l'âge Sterval. « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint qui les fit tous mourir. » Il est en train de faire un parallèle entre la situation qui s'est passée au début dans le livre de la Genèse et celle qu'il va y avoir à la fin des temps, et dit « ça va se ressembler pas mal ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit si c'est pas ça? Les hommes ont juste ça dans la tête, manger, boire, donner en mariage, ils s'occupent de leurs affaires. Et les affaires éternelles, ma destinée éternelle, c'est comme s'ils disaient « je m'en contrefiche ». Ils y croient pas. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « ah, mais que je meurs, je m'en vais dans le trou puis c'est fini ». Tu t'en vas pas dans le trou puis c'est fini. Il y a d'autres choses après. Parce que Dieu le dit. Et si Dieu le dit, c'est parce qu'il y a une réalité en arrière de tout cela. Et c'est pas parce que je veux éliminer de mon esprit la notion qui me fatigue et que je ne veux pas entendre. C'est pas en niant quelque chose que ça l'élimine la chose qu'on ne veut pas entendre. Alors les versets 19 à 21... Il y a aussi toute la providence qu'on voit dans ces versets-là. Parce que la providence, autrement dit, on s'est dit tantôt, disons que dans le document que j'avais passé la semaine dernière, là, il y avait un spécialiste des animaux qui avait dit que fort probablement que ce serait 35 000, ça contiendrait à peu près le nombre d'animaux qui était nécessaire pour maintenir les différentes espèces. Mais ils ont dit, soyons généreux, mettons-en 50 000. Alors, à 50 000, on peut se poser la question, la première fois qu'on lit le texte, « Ouais, mais veux-tu bien me dire comment Noé a fait pour aller chercher une girafe? Veux-tu bien me dire comment Noé a fait pour aller chercher un ci, un ça, et allonger la liste? » C'est pour ça que les Écritures nous disent, quand on regarde les versets 20, des oiseaux selon leur espèce, des bêtes selon leur espèce, de tout reptile du sol selon son espèce, deux de chaque espèce. Remarquez les mots qui sont utilisés, en tout cas dans ma version à moi, viendront vers toi. Est-ce qu'on ne voit pas encore là un autre signe que Dieu lui-même va s'occuper d'amener ceux qu'il veut sauver lui-même dans l'arche? C'était pas à Noé à partir à la chasse. Puis il dit, ben là, toi, ma petite gazelle, je te choisis toi, c'est toi qui s'en viens avec moi. Puis je choisis une mâle, check, oh, es-tu une femelle, es-tu un mâle? Non, Dieu a permis que ce soit l'animal lui-même. Qu'est-ce que c'est pour Dieu que de mettre à l'esprit d'un animal? On a plein d'exemples dans l'Ancien Testament de ça. Par exemple, quand Élie famine dans le pays, et qui s'est en allé pas loin d'une chute, et la chute a arrêté de couler, et Dieu a demandé à un corbeau de venir nourrir son... Alors, il faut que Dieu soit capable d'intervenir sur l'esprit d'un animal. Pour moi, il n'y a aucun problème là. Il y en a qui voient des problèmes ou ce qu'il n'a pas. Quand on comprend qui Dieu est capable de tout faire. Alors, faire venir des animaux dans l'arche, pour Dieu, c'était pas vraiment un problème. Et même l'ordre, parce qu'on se dit, s'il n'enverrait 35 000 d'un coup sec, il prendrait des lumières rouges, puis rentrer des lumières vertes. Mais non, Dieu est capable de permettre que l'animal soit comme programmé pour arriver, que tout se fasse dans l'ordre et tout se fasse systématiquement. Et dans le verset 21, on voit que Dieu continue d'utiliser les moyens que les hommes utilisent normalement pour maintenir leur vie. Il dit, « Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et fais-en provision par devers toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. » On a vu ce matin, sur les 569 wagons que ça pouvait contenir, je pense qu'il y en avait 200 quelques qui allaient pour les animaux eux-mêmes, puis il y en avait, je pense, un nombre encore un petit peu plus grand pour la nourriture qui serait nécessaire pour tout ce monde-là. Alors, on voit la main providentielle de Dieu qui permet que Noé puisse accumuler toutes ces choses-là pour garder la vie de ceux à qui... Alors, on voit des différentes choses. Cette providence-là s'exprime de plusieurs façons dans le verset. Premièrement, Dieu ne permet pas la destruction, que la destruction des méchants mette fin à l'ordre de l'univers et de sa création. Il veut que le règne animal soit conservé. Il aurait bien pu recommencer ça d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il avait créé? Il avait dit que tout est bon et très, très bon. Donc, il a voulu que les espèces soient conservées et que le péché de l'homme ne soit pas la cause de la destruction de sa création. Alors, aussi, qu'on apprend par ça, on apprend que le Seigneur veut que l'ordre qui existait avant le déluge puisse se perpétuer après le déluge. Pourquoi il a décidé un mâle, une femelle? Parce que normalement, la procréation se fait de cette façon-là, et Dieu avait déjà prévu que après le déluge, la vie continuerait comme elle était avant le déluge. Et la troisième chose providentielle, qu'on voit que Dieu dirige les animaux à se rendre vers Noé pour entrer dans l'arche. Verset 22, moi je trouve que c'est le verset très beau pour nous donner des leçons à nous. « Et Noé le fit. » Dans le petit mot « le fit », là, il y a beaucoup de travail. « Noé le fit. » Autrement dit, Dieu a parlé, Noé obéit. Et il fit, il ne dit pas « il fit en partie », il a fait son gros possible, il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Est-ce que nous, quand Dieu nous commande des choses, est-ce que nous, on le fait? Et est-ce qu'on fait tout ce qu'il nous a commandé? Fort probablement que non, là, mais ça serait l'idéal au moins à atteindre. Alors, on voit qu'il a réagi avec promptitude, donc sûrement qu'il n'a pas dit, ben là, on va prendre un mois de vacances et je vais commencer le mois prochain. Il a dû commencer tout de suite parce qu'il devait savoir qu'un méchant chantier. Et il a estimé l'avertissement de Dieu avec perfection, dans le sens que il agit immédiatement et ça dit qu'il a fait tout ce que le Seigneur lui a commandé. Alors, il a dû faire des attentions de mesurer avec la coudée de l'époque, que ça allait 300 coudées, 50, puis 45, 30 coudées de haut. Alors, imaginons aussi la persévérance que ça a dû y prendre. On va accepter que Genèse 6.3 parle de 120 ans. T'embarquer sur un projet comme ça. On s'embarque des fois juste sur un petit projet qui dure 2-3 mois. Quand on a fait l'église, si ça a duré à peu près ça, une couple de mois, puis on trouvait ça long, on avait hâte que ça soit fini. Imagine t'embarquer dans un chantier que tu sais qu'il va durer 120 ans. Il faut que tu aies de la persévérance, mais là, pas à peu près. Il faut que ta foi en Dieu, il faut que ta confiance au Seigneur, il faut que ton énergie aussi soit maintenue. Alors le Seigneur a permis tout cela parce qu'il avait prévu qu'il rentrerait dans l'arche. On va terminer par un verset, Hébreux 11, verset 7. Par la foi, Dieu, divinement, Noé, c'est-à-dire divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Alors, je vois au moins trois applications à l'intérieur de ce texte-là. La première, prenons au sérieux les avertissements divins concernant la destinée éternelle des hommes en obéissant aux commandements donnés par Jésus-Christ lui-même sur nos devoirs de sentinelle. Quand il nous dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, nous aussi, le contrat est long, la persévérance va être exigée. Le deuxième point, « Pointons les pécheurs vers la glorieuse personne de Jésus-Christ et de son œuvre de salut. » Et aussi, en ces temps d'écuménisme, n'hésitons pas à affirmer l'absolue exclusivité du salut en Christ. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Troisième application, comme Noé, obéissons. C'est intéressant de lire dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Des passages qui nous disent que la foi sans l'obéissance est une foi morte. C'est des paroles de Dieu qui sont pesantes, qui sont chargées de sens. Il faut faire attention pour les prendre au sérieux, comme Noé a pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Alors que notre grand, glorieux et gracieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.